l'hypocrisie. Or, ça n'a rien d'hypocrisie. Il s'agit d'une sorte de protection de l'autre et de respect de l'autre. Donc voilà. Mais après, je ne cache pas aussi que parfois, et pas toujours, cela peut aussi devenir une sorte d'art de manipulation.
Plus qu'une simple politesse ou un jeu de courtoisie, vous écrivez aussi que le tarot est une arme. Dans quelle mesure ?
En fait, c'est une arme parce que cela évite la confrontation directe. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une guerre directe, mais justement, c'est une sorte de moyen d'avoir recours à la parole, à la politesse, mais aussi à l'affection pour contourner des situations délicates. Et Tarot nous apprend qu'une autre manière de relation humaine est aussi possible. Et voilà, donc c'est aussi une arme de paix. Si on veut vraiment négocier, quel que soit le niveau, quelle que soit l'échelle avec les Iraniens, si on n'a pas cette lecture, cela peut donner lieu à beaucoup de frustration et d'incompréhension.
Alors, un lien à l'actualité, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les États-Unis ont péché par méconnaissance du tarot face aux mollahs, dans une certaine mesure ?
En fait, il faut peut-être contextualiser. C'est vrai que les mollahs aussi sont des Iraniens, mais en fait, on parle d'un régime maléfique et il faut aussi reconnaître qu'ils maîtrisent parfaitement cet art ancestral du tarot. Bien sûr, après, en fait, je refuse cette idée que les ayatollahs et ce régime représentent la sagesse pour développer leurs idées maléfiques.
Sina Abedi et son livre Tarot, l'art de la guerre à l'iranienne, publié aux éditions Gondi Chapour. Il répondait aux questions de Corinne Mandjou.
C'est dans ta nature.
Les chercheurs poursuivent l'enquête sur l'origine de la crise du hantavirus. Cette enquête mène à une décharge d'Ushuaïa en Argentine où plusieurs passagers de la croisière où est apparu le virus s'étaient rendus pour observer des oiseaux. C'est paradoxal, mais les décharges publiques abritent de la biodiversité. C'est dans ta nature et dans tes poubelles avec Florent Guignard.
Il y a de la vie dans les décharges. Et oui, là où finissent nos déchets, un nouvel écosystème se met en place. D'abord, des bactéries qui décomposent la matière organique. Et à une plus grande échelle, toute une faune est attirée. Des mouches, des vers, des chiens errants, des sangliers et surtout des rats et des oiseaux. Frédéric Mahler est ornithologue à la LPO.
Il y a ceux qui viennent directement chercher de la nourriture. Et puis il y en a d'autres, des rapaces et en partie les goélands, qui peuvent venir se nourrir sur les animaux qui eux-mêmes sont attirés par la nourriture, pour ne pas les nommer les rats. Donc il y a déjà un début de chaîne alimentaire sur les décharges du même nom.
Des nuées de mouettes ou de vautours signalent à coup sûr un garde-manger géant à ciel ouvert. En Europe, les cigognes sont devenues les reines des décharges jusqu'à arrêter de migrer, comme l'a vu Frédéric Mahler en Lorraine, dans l'est de la France.
On a une décharge qui contribue à fixer jusqu'à 80 cigognes en hiver. Le climat lorrain est quand même, malgré le réchauffement, connu pour être un petit peu frisqué quand même en hiver. Mais avant, elles partaient classiquement en migration et elles restent en hiver en profitant de la décharge. Il y a une année où ils ont fermé la décharge et effectivement, les cigognes sont parties en migration. Et elles sont revenues au printemps suivant et depuis que la décharge a réouvert, elles passent de nouveau l'hiver.
On trouve de tout dans les décharges, du bon, le reste de votre repas, et du beaucoup moins bon.
Elles peuvent se faire avoir parce qu'elles trouvent, parce qu'on a remarqué qu'elles avalaient des bracelets élastiques, vous savez ces petits bracelets qu'on a, et qu'elles prenaient sans doute pour des vers de terre. J'en ai trouvé dans les fientes de cigognes de ma bonne ville, ces élastiques, ou les morceaux de plastique avec les sacs plastiques peuvent faire des bouchons dans l'estomac, et il y a des cigognes qui meurent l'intestin encombré de ces matières plastiques.
Roi de la boue, prince du fer, seigneur crado de la décharge.
Oui, il y a bien du bon et du mauvais.
Bon, évidemment, par principe, les décharges à l'air libre, c'est pas terrible, c'est pas bon, on est contre, etc. D'un autre côté, ça favorise certaines espèces. Enfin, c'est un petit peu comme la nourriture en ville. Pour les oiseaux en ville, c'est pas de la bonne nourriture, ça c'est clair. Donc ça a des conséquences sur l'état de santé. Et d'un autre côté, le fait qu'il y ait de la nourriture facile, ça maintient en ville un certain nombre d'espèces.
Tout le monde veut sauver la planète, mais personne veut descendre les poubelles. Ça sert à rien de tirer la sonnette. Mettre des gilets de sauvetage sur les sirènes.
Mais ça existe vraiment, les sirènes ?
Des animaux mi-femmes, mi-poissons, non, ils n'apparaissent que dans la mythologie ou dans la vision embrumée ou alcoolisée de certains marins qui voyaient sûrement des lamantins ou des dugongs, ces gros mammifères gris végétariens surnommés vaches marines, des espèces menacées qui appartiennent à l'ordre des siréniens. C'est pour ça qu'on leur a donné ce nom. Les sirènes n'ont jamais existé et les siréniens pourraient un jour ne plus exister.
C'est mieux de construire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Faire des enfants forts.
Les enfants forts, interprétés par Médine pour refermer cette chronique C'est dans ta nature de Florent Guignard. Comme chaque dimanche, on écoute un extrait de l'Atelier des médias, émission consacrée cette semaine à la Radio Box. La Radio Box, c'est un studio de radio mobile tout en un conçu par l'ONG française Making Waves. Il est devenu un outil de sensibilisation déployé à grande échelle par la Croix-Rouge dans ses missions, notamment en Afrique. Loïc Judeau de la Croix-Rouge française présente la Radio Box au micro de Steven Jambeau.
Alors c'est très simple, en tout cas tout tient dans un sac à dos. En gros c'est la taille d'une ramette A4 hein, de feuilles, et il va y avoir 4 ou 5 boutons dessus.
Pour régler le volume en fait.
Pour régler le volume exactement, on fait des micros. Il y a des câbles de couleur parce qu'on peut pas se tromper. Il y a un micro rouge, un micro bleu, jaune et vert. Ça se branche vraiment, même si on n'a jamais fait de radio, en 10 minutes la radio elle est opérationnelle.
Avec l'idée d'ailleurs d'avoir une prise pour brancher un haut-parleur, et dans le sac à dos vous avez pensé à un haut-parleur pour permettre de faire une émission en public et que tout le monde dans l'assistance puisse écouter.
Ouais, et on va monter un vrai studio de radio. Et les gens vont pas se parler de la même façon quand on va mettre des micros que quand on parle à des personnes sur au coin d'un café ou autre. Là, on a vraiment, en tout cas, une ambiance de studio de radio. Et on va pouvoir faire des émissions évidemment publiques avec des haut-parleurs. On va pouvoir diffuser ces émissions si on branche un petit émetteur FM. Et l'objet aussi, surtout, permet de rendre accessible la parole des gens qu'on n'entend pas. C'était ça, surtout, en tout cas, notre volonté à la Croix-Rouge.
Ils ont droit à un avenir meilleur. L'ambition, nos devoirs en les vaccinant. Papa faut vacciner, maman faut vacciner. Il faut les vacciner pour les protéger. Maman faut vacciner, papa faut vacciner. Il faut vacciner pour mieux les protéger.
Vous êtes sur votre émission Place à la Santé, une émission de la Croix-Rouge. Nous allons parler de la prévention de la poliomyélite.
Loïc Judeau de la Croix-Rouge française et le docteur guinéen Ousmane Camara que l'on vient d'entendre au micro d'une radio-box seront tous les deux dans l'Atelier des médias à 11h10 temps universel sur RFI. Pour l'heure, il est 4h29 en temps universel. À suivre, l'actualité africaine.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Ce dimanche, dans votre Selecta, il y a du rap cambodgien et américain, une rencontre avec Jazia Satour et dans l'histoire d'un live, Santana à Woodstock en 1969. Rendez-vous tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI ou en podcast et en audio 3D sur le site de la Radio du Monde. BPM.
Vous écoutez RFI, il est 6h30 à Paris, 5h30 à Kinshasa. L'actualité africaine avec Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Après le retour d'Ebola en RDC, l'OMS déclare une urgence de santé internationale.
Annonce faite par le directeur de l'organisation, Tedros Ghebreyesus, alors que le virus a également été détecté en Ouganda et qu'il n'existe à l'heure actuelle ni traitement ni vaccin pour la souche Bundi Bugyo. Vous entendrez également la première prise de parole du ministre congolais de la Santé depuis cette résurgence. Dans le reste de l'actualité, le soutien de l'ONG américaine Centre Carte à l'audit du secteur minier qu'entendent mener les autorités congolaises. Vous entendrez là aussi l'un de ses responsables. Il était considéré comme le principal financier du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Félicien Kabuga s'est éteint hier à l'âge de 93 ans à La Haye, la même où il était jugé pour génocide et crimes contre l'humanité. Et puis Volker Turk, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, qui pointe du doigt le rôle des armées nigérianes et tchadiennes dans des bombardements survenus dimanche dernier et qui ont fait des dizaines de morts civiles. Dans 10 minutes, ce sera le journal des sports. On vous en parle depuis vendredi matin. L'épidémie d'Ebola détectée en RDC, dans l'Est, mais aussi en Ouganda, est désormais une urgence de santé publique de portée internationale. Bonjour Céline Pellarin.
Bonjour.
Le directeur de l'OMS, le docteur Tedros Ghebreyesus, à l'origine de cette décision, estime que la situation ne répond pas aux critères d'une urgence pandémique.
Et l'agence sanitaire de l'Union africaine, l'Africa CDC, l'une des premières à alerter sur la résurgence de la maladie dans l'Est de la RDC, donne comme bilan provisoire 88 décès vraisemblablement dus au virus sur 336 cas suspects depuis la mi-avril. La transmission humaine du virus se fait par les fluides corporels ou par exposition au sang d'une personne infectée, qu'elle soit vivante ou décédée. Et Nemo, les personnes infectées par Ebola ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, avec une période d'incubation pouvant aller jusqu'à 21 jours.
Et contre la souche Bundi Bugyo d'Ebola, il n'existe aucun vaccin aucun traitement.
Oui, effectivement, mais hier matin, sur notre antenne, le docteur Jean Casseya, épidémiologiste, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, expliquait que des vaccins candidats, des médicaments candidats, sont en train d'être évalués. En attendant, le docteur Casseya compte essentiellement sur les mesures de santé publique pour endiguer le virus. Pour les populations concernées, cela veut dire, Nemo, limitation des déplacements et gestes barrières. Se laver les mains, éviter tout contact avec les liquides biologiques, des cas suspects ou confirmés d'Ebola, ou encore ne pas toucher les corps des défunts.
Merci Céline Pellarin. Et c'est dans ce contexte que le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, a donné hier une première conférence de presse depuis l'officialisation du retour d'Ebola dans le pays. Il a souligné que les risques de propagation du virus dans la province de l'Ituri, région minière très fréquentée, restaient très élevés. Les précisions de Pascal Moulégois depuis Kinshasa.
L'origine de cette flambée est désormais connue. Une infirmière décédée le 24 avril à Bounia a été enterré à Mangbalou à près de 90 km de là, selon les ministres de la Santé. Depuis, les contaminations se multiplient, notamment dans les structures de santé, avec une hausse rapide des décès enregistrés ces dernières semaines. La localisation de Mangbalou, important centre minier et commercial, complique la riposte sanitaire, reconnaît le ministre Roger Kamba.
Et donc, le transport, les gens vont dans beaucoup de directions. Le défi, c'est de contrôler, de surveiller de manière très, très active tous les cas dans ce mouvement de personnes. Nous avons d'autres défis. Nous devons retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec les malades.
Les autorités sanitaires travaillent désormais à empêcher une propagation vers d'autres provinces. Même la capitale Kinshasa, reliée par des vols directs à Bounia, est considérée comme exposée, explique Dieudonné Mwamba, le directeur général de l'Institut national de santé publique.
Nous regardons aussi les autres provinces qui sont à risque, donc qui doivent être aussi en préparation, notamment le Nord Kivu, le Haut-Ouélé et la Tchouk. Donc c'est éventuellement même Kinshasa comme province à risque.
Sans vaccin ni traitement contre cette souche Bundibugyo, les autorités misent surtout sur la surveillance et les campagnes de sensibilisation pour tenter de freiner l'épidémie. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
Et sur cette nouvelle épidémie d'Ebola, vous retrouvez un dossier complet à lire à la une de notre site internet RFI.fr. On vous en parle également dans l'ensemble de nos éditions d'information. Pour rappel, il existe un numéro vert en RDC pour toute question sur Ebola. Il faut composer le 151 à la RDC encore, où les autorités annonçaient fin avril un audit du secteur minier pour maximiser les revenus de l'État. Une initiative saluée et soutenue par le Centre Carter, une ONG américaine qui estime que c'est une opportunité pour le pays de réformer son système fiscal, d'établir une meilleure traçabilité de la production et d'améliorer la gestion des entreprises étatiques, mais aussi de réévaluer la part de l'État dans les projets en partenariat avec les entreprises étrangères. Je vous propose d'écouter Fabien Mayani, directeur de programme de gouvernance des ressources naturelles du Centre Carter en RDC.
Beaucoup de ces contrats ont été signés pendant la période 2001 à 2010, dans un contexte où la partie congolaise n'avait pas de moyens pour mettre en valeur ces actifs-là. Mais aujourd'hui, la situation a fondamentalement changé. Je peux vous dire que beaucoup d'investisseurs ont aujourd'hui récupéré les investissements initiaux qu'ils ont injectés dans ces projets-là. Et que donc, on a intérêt à réévaluer la structure d'actionnariat. Parce que dans la plupart de ces projets, la partie congolaise a une participation minoritaire. Est-ce que cette situation est toujours valide aujourd'hui? Est-ce que la Gécamines, la Sokimo, les autres entreprises étatiques doivent continuer à avoir une participation minoritaire de 20%, 15%, 30%? Évidemment, il y a des exceptions où on arrive à 40, 40, 45%. Donc, nous pensons que c'est des questions qui doivent être évaluées objectivement à travers un cabinet d'audit indépendant qui évalue les revenus générés par ces partenariats. Comment ces revenus ont été partagés entre la partie RDC et les investisseurs étrangers.
Fabien Mayani, joint par Clotilde Hazard. Il est décédé avant même d'avoir été jugé. Félicien Kabouga, le présumé financier du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, s'est éteint à l'âge de 93 ans dans un hôpital de La Haye aux Pays-Bas. L'homme d'affaires a été poursuivi par le Tribunal pénal international pour le Rwanda pour génocide et crimes contre l'humanité. Son décès met ainsi fin à la procédure judiciaire. RFI La Haye, Stéphanie Maupas.
Seuls quelques témoins auront déposé contre lui au cours de son procès. Félicien Kabouga décède sans avoir été condamné, mais il aura passé ses 6 dernières années en prison. Il avait été arrêté en mai 2020 après 23 années de cavale, puis il avait été envoyé à La Haye pour y subir son procès. L'homme d'affaires rwandais devait répondre de génocide et de crimes contre l'humanité. Le procureur lui reprochait d'avoir financé le génocide en rassemblant des fonds et en emportant des armes, dont des machettes. Félicien Kabouga était aussi l'un des actionnaires principaux de la radio-télévision d'Émile Collin, qui pendant le génocide appelait au meurtre des Tutsis et des Hutus modérés. Le procès de Félicien Kabouga a tourné court lorsque des médecins ont diagnostiqué une démence sévère et son procès a été suspendu indéfiniment en septembre 2023. Le Rwanda s'était porté volontaire pour l'accueillir, mais Kabouga refusait d'y retourner. Lui voulait mourir en France, où résident certains de ses 12 enfants. Il est finalement décédé dans un hôpital de La Haye. Stéphanie Maupas, La Haye, RFI.
Quelques jours après des bombardements meurtriers survenus dimanche dans le nord-est du Nigeria, le haut commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, Volker Turk, demande aux autorités nigérianes et tchadiennes de mener des enquêtes rapides, approfondies, indépendantes et impartiales sur ces incidents troublants. L'ONU attribue ces bombardements aux armées des deux pays qui, elles, de leur côté, assurent pourchasser des membres du groupe Boko Haram. Anjamena, la correspondance de Nadia Ben Mahfoud.
Depuis le début du mois, des attaques de Boko Haram se sont multipliées dans le lac Tchad, faisant des victimes civiles et militaires. Depuis le vendredi 8 mai, l'armée tchadienne dit mener des combats de ratissage et de bombardement pour déloger et éliminer des hommes affiliés à la secte. Le gouvernement affirme travailler en étroite collaboration avec l'armée nigériane. Dans un communiqué officiel, Volker Turk, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, se dit alarmé et attristé par le nombre de victimes civiles causées par les avions de combat tchadiens qui, selon lui, auraient ciblé des îles isolées au nord du Nigeria. Si ces îles sont connues pour abriter des camps de Boko Haram, l'ONU évoque une centaine de morts civiles, principalement des pêcheurs nigérians. Le gouvernement tchadien, par la voix de son porte-parole, se dit ouvert à une enquête internationale et réfute les accusations. Gassim Cherif.
Nous disposons des moyens aériens pour aujourd'hui faire la part entre ce qui relève de Boko Haram et les populations civiles. Nous avons toujours veillé à ce que les civils soient épargnés. Il n'y a aucun civil qui est mort dans ces attaques-là.
Cette vaste étendue d'eau au cœur du Sahel et ses innombrables îles difficiles d'accès ont transformé la région en un bastion djihadiste. Les combattants de la secte Boko Haram et de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest y sont actifs depuis près de 20 ans et les ripostes des armées tchadiennes et nigérianes sont régulièrement accusées de faire de nombreuses victimes civiles. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Et puis à moins de 3 mois de la présidentielle en Zambie, le Parlement a été dissous. Ce vendredi, dissolution survenue après une fin de session parlementaire particulièrement controversée. 73 lois examinées et votées en à peine une semaine sur la cybersécurité, les rassemblements publics ou encore la surveillance. Des textes jugés inquiétants par plusieurs organisations de la société civile. Austin Kayanda est le directeur du média Institute of Southern Africa.
Nous ne connaissons pas les motivations derrière le passage de toutes ces lois en une seule semaine, alors que nous avions eu 5 ans pour faire ce travail correctement. Dès le début du mandat, des inquiétudes avaient été soulevées sur la nécessité de revoir certaines de ces lois et on nous avait assuré que cela ne se ferait pas. Puis soudainement, elles ont été remises sur la table et envoyées au Parlement. Les citoyens auraient dû avoir davantage de temps pour examiner ces textes et donner leur avis. Parmi les 73 lois adoptées, il y a notamment le projet de loi sur les rassemblements publics. Cela signifie qu'on revient à l'époque coloniale où il fallait une autorisation pour se réunir, s'associer ou partager des idées. Pour nous, ce texte n'est pas différent de la loi sur l'ordre public, il était pourtant censé remplacer. Nous espérons maintenant que le président ne promulguera pas certaines de ces lois pour que les citoyens aient davantage de temps pour les examiner et participer au débat.
Kayanda, joint par Christina Okello. Il est 6h41 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre un deuxième reportage dans l'état du Jonglei au Soudan du Sud, à Lankien précisément, ville ravagée par une guerre civile entre les forces de Riek Machar et de Salva Kiir et où les habitants reviennent petit à petit mais où les services de base ont presque tous disparu. Et puis vos chroniques du dimanche dans Il y a quoi sur tes réseaux, on parle de coupure d'électricité avec le jeune Mustapha, il a 19 ans, il est malien et dans 10 minutes on retrouve Maria Afonso pour 100% création. Avant cela, place au sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Nemo.
Du football pour démarrer ce journal et le sacre de l'USM Alger en Coupe de la Confédération.
Le vainqueur du match aller 1-0, les Algérois ne s'attendaient pas pour autant à une partie de plaisir au Caire face aux Amalek pour la finale retour. Prédiction vérifiée dès la première minute avec un pénalty concédé, transformé par le Palestinien Odaï Dabar. Avantage perdu d'entrée donc pour les Usmistes, mais les joueurs de la Mindiaye ont continué à pousser, enchaînant les frappes de loin dans un Cairo international acquis à la cause du Zamalek. L'USMA a finalement tenu avant de s'imposer 8 tirs au but à 7 au bout du suspense. Glody Likonza, le milieu offensif de l'USM Alger, se chargeant du dernier pénalty. Touché certes par le gardien Zamalkaoui, mais bel et bien au fond, une vraie joie pour le joueur congolais.
Ben d'abord, premièrement, c'était pas facile de tirer un pénalty comme ça devant 80 000 personnes, c'est pas facile. Voilà, grâce à Dieu, j'ai choisi les bons côtés. Voilà, j'ai bien tiré. On a fait l'essentiel. On rentre avec la coupe. Et on a un entraîneur qui a beaucoup d'expérience. Il était à Mazembe, il a gagné des coupes aussi là-bas. Je pense que dans l'ensemble, c'était vraiment bien. On s'est bien préparé pour ça. Et on a une très bonne groupe aussi.
Glody Likonza avec Sofiane Anani, l'USM Alger qui remporte ainsi sa deuxième Coupe de la Confédération.
Et ce soir, Antoine, épisode 1 de l'épilogue pour l'autre Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions de la CAF.
L'Égypte ne sauvera pas l'honneur, le Zamalek battu en finale de la C2. Et aucun club égyptien en finale de la C1 pour la première fois depuis 2019. Pretoria accueille la première manche de cette finale entre les Mamelodi Sundowns, club du président de la CAF, Patrice Motsepe, et la AS FAR de Rabat. Coup d'envoi de cette finale aller de Ligue africaine des champions à 14h, temps universel.
Un mot des plus jeunes de la CAN U17 au Maroc, la Côte d'Ivoire enchaîne.
Deuxième succès de suite pour les éléphantaux dans leur groupe B. Victoire 1-0 sur une RDC sur la corde raide. Le Cameroun, lui, se relance avec un succès 1-0 sur l'Ouganda dans la poule A, victoire du Maroc 2-1 contre l'Éthiopie et de l'Égypte sur le même score face à la Tunisie.
On termine avec les sports de combat et le MMA. Un an et demi plus tard, rien n'a changé. Francis Ngannou reste le patron.
Dernier combat pour le Camerounais en octobre 2024, mais l'ancien champion poids lourd de l'UFC n'a rien perdu. Cette nuit, le Predator, c'est son surnom, a largement dominé un autre vétéran de l'octogone, le Brésilien Philippe Lins. L'ancien de la PFL, du Bellator et de l'UFC n'a pas fait le poids face à Ngannou, qui l'a battu par KO avant même la fin du premier round. Retour fracassant donc pour le Camerounais.
I'm gonna give a lot of respect to Flip.
Je dois saluer Philippe Lins parce qu'il était bien plus coriace que prévu. Il a placé quelques coups au début du combat et là je me suis dit ok, on a un gars solide en face, c'est un bon. Et puis je me suis adapté en me disant que le moment viendrait. Ensuite j'ai entendu quelqu'un dire qu'il restait une minute. Et là je me suis dit ok, une minute. Maintenant je prends les choses en main.
Francis Ngannou, interviewé par Netflix, diffuseur du combat. Le Camerounais qui fêtera ses 40 ans au mois de septembre et qui rêve toujours d'un combat contre la légende des lourds, John Jones.
Et qui rêve toujours d'un combat en Afrique. Merci Antoine Grenier. On vous retrouve tout au long de la matinée pour les sports sur RFI.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Les principaux titres de ce dimanche 17 mai 2026, l'OMS a déclaré il y a quelques heures une urgence de santé publique de portée internationale face à l'épidémie d'Ebola qui frappe la RDC et l'Ouganda. C'est le deuxième niveau d'alerte le plus élevé, le premier étant l'urgence pandémique, le variant Bundibugyo d'Ebola contre lequel il n'existe aucun vaccin, a déjà provoqué potentiellement 88 décès et plus de 300 personnes contaminées. Aujourd'hui, à ce dimanche, donc 17 mai, a lieu la journée internationale contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie, une date choisie en commémoration du 17 mai 1990, jour où l'OMS a retiré l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. On vous en parle dans nos différents journaux. Et puis la chanteuse bulgare Dara a remporté l'Eurovision hier soir à Vienne avec le titre Bangaranga, offrant une première victoire à son pays devant Israël, dont la présence avait suscité des appelle au boycott, notamment de l'Espagne, de l'Irlande, des Pays-Bas, de la Slovénie ou encore de l'Islande. Il est 6h46 ici à Paris. Second reportage, Afrique à Lankien, dans l'est du Soudan du Sud, état du Jonglei. Une ville complètement détruite en début d'année dans le cadre du conflit qui oppose les forces du président Salva Kiir à celles de son opposant, Riek Machar. Hier, on vous parlait de l'hôpital de l'ONG Médecins Sans Frontières qui n'avait pas été épargné. Aujourd'hui, on vous parle de ceux qui ont fui, les 20 000 habitants qui ont survécu tant bien que mal dans les forêts marécageuses avant de petit à petit revenir à partir du mois d'avril, quand la situation s'est un peu stabilisée. Mélenchon est désormais une ville fantôme sans aucun service de base. Le reportage de notre envoyé spécial Florence Mietto.
Jacob Dac, la trentaine, se remémore ce à quoi ressemblait Lankien avant que la ville ne soit complètement détruite par une invasion de l'armée gouvernementale début février.
Voilà, nous entrons dans le marché principal et à droite, vous pouvez voir le centre pour la jeunesse où les jeunes font normalement des activités pendant la journée.
Tout ce qu'il reste aujourd'hui du marché n'est que dévastation. Amas de tôles ondulés carbonisés, murs en terre à moitié effondrés.
Lankien était une belle ville, mais maintenant, vous voyez bien, tout a disparu. Il n'y a pas de magasin, pas de clinique, pas d'eau. Tout a été détruit. Il n'y a rien dans ce marché de Lankien qui puisse aider la communauté.
Et pourtant, poussés par la faim et les conditions extrêmes de survie dans les forêts marécageuses, les habitants de Lankien reviennent, espérant que le conflit ne va pas reprendre. Au milieu des ruines du marché, on distingue deux ou trois groupes d'hommes en train d'ériger des structures en bois. Parmi eux, Osma Djok, 28 ans, un commerçant de Lankien.
J'ai perdu tout ce que je possédais dans le conflit. Mon magasin a été détruit et pillé. Même ma maison a été pillée puis brûlée. En plus, j'ai perdu tout l'argent liquide que j'avais économisé. Il m'a été volé lors de l'attaque. Maintenant, je reconstruis mon magasin avec mes frères. Nous allons reconstruire le marché. Car lorsque les denrées seront à nouveau acheminées et proposées à la vente, encore plus d'habitants vont revenir, j'en suis persuadé.
Oth espère aussi le retour des ONG. Mais la fermeture définitive de l'hôpital MSF annoncée début mai et le manque de nourriture malgré la reprise des distributions du programme alimentaire mondial ne font que perpétuer la souffrance des habitants. Après avoir fui Lankien, Nyantio Mabil, une femme de 35 ans, s'est réfugiée à Niatim, un camp de déplacés improvisés situé à une vingtaine de kilomètres de la ville, bloqué de tout accès humanitaire par les autorités de Djouba.
À Niatim, nous avons beaucoup souffert. Nous n'avions que des feuilles, des nénuphars et des fruits sauvages à manger. Beaucoup de gens sont morts de faim. Ceux qui ont détruit notre ville, notre hôpital, notre marché, ceux qui ont même cassé notre puits ne doivent jamais revenir. C'est à cause d'eux que nous sommes dans cette situation atroce. Voilà ce que nous voulons, nous les femmes et les mères de Lankien, qu'ils nous laissent tranquilles.
Fin avril, l'ONU a fait part d'un risque de famine dans les zones les plus touchées par le conflit. Le blocage de l'assistance humanitaire a été en partie levé par les autorités de Djouba. Florence Mietto, de retour de Lankien, RFI.
Et ces deux reportages de Florence Mietto sont à retrouver quand vous le voulez sur notre application RFI Pure Radio. L'un de vos rendez-vous habituels du dimanche sur la radio du Monde. Il y a quoi sur tes réseaux? Cette jeune de 15 à 25 ans qui, chaque semaine, scrolle sur leur téléphone pour nous faire part de ce qui traverse leur génération. Aujourd'hui, on retrouve Mustapha, malien de 19 ans, qui nous parle des galères quotidiennes liées aux coupures d'électricité. Une chronique signée aujourd'hui Coralie Pierret.
En 2026, on va venir parler de courant encore. Non, ça m'énerve jusqu'à j'ai envie de me tirer les cheveux.
Ce que vous entendez, c'est une scène que l'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux de Mustapha. Quelque chose entre le comique et le découragement. C'est souvent drôle, et puis en fait, pas tant que ça.
1000 plus 1000, multiplié par 1000.
Là, il a craqué.
Dans cette vidéo, un jeune se filme face caméra. Il est dans le noir. L'électricité vient de couper.
Voici le débrancheur du pays.
À Bamako, la coupure d'électricité, généralement, bon, ça ne prévient pas. De 6h jusqu'à 16h, 18h, il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est avant que je ne quitte Bamako, mais là, je pense que c'est encore pire.
Aujourd'hui, Mustapha est étudiant à Bruxelles, en Belgique, et les coupures de courant ne font plus partie de son quotidien. Mais jusqu'à l'année dernière, il vivait à Bamako, la capitale malienne, où il fait très chaud.
Bon, moi, j'utilisais des ventilos chargeables, mais gare à toi si tu ne branches pas ton ventilo dans la journée, gare à toi.
Au Mali, la production d'électricité dépend largement du carburant. Mais le carburant se fait rare. À cause des conflits lointains, la guerre au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz, mais aussi à cause des conflits locaux. Depuis septembre, les djihadistes du Jnim, un groupe lié à Al-Qaïda, bloquent les arrivées des camions-citernes dans le pays. Alors, pour supporter les coupures, on en fait des blagues sur les réseaux.
La description, c'est courant, nana. C'est-à-dire, le courant est des retours. Alors, sur la vidéo, on voit un filtre sur son visage qui élargit un peu les lèvres, grossir les yeux, qui donne une impression clown. C'est un peu drôle. Il y a même certains qui reprennent une chanson de Oumou Sangaré. C'est une chanteuse malienne. Le titre, c'est Saya. La personne a interprété la chanson, change le mot Saya par Kurantike, c'est-à-dire la coupure du courant bambara.
Faire des vidéos, c'est aussi pour certains une façon de critiquer les autorités de transition. Elles